Aujourd'hui, mercredi 29 septembre, c'est la Sainte Guerre des Chiffres. Sainte Guerre des Chiffres est la sainte patronne des compteurs à dormir debout et des numérologues assermentés par l'État, selon la police. Ainsi donc, selon la police, le projet de casse des retraites emporterait peu à peu l'adhésion des Français. Grâce à la pédagogie du gouvernement, grâce à la force de conviction du ministre Woerth, lequel, toujours selon la police, deviendrait plus populaire que Zidane et Johnny réunis, grâce aussi au bon sens des Français, qui est à la raison ce que le calcul est à la marée chaussée. Grâce à tout cela, nous savons désormais que la mobilisation contre la casse des retraites et, accessoirement, la détestation de ce gouvernement L'Oréal sont en voie de disparition, selon la police. Selon la police, le nombre de chômeurs serait en constante diminution, au contraire des fraudes aux allocations. Le bouclier fiscal entraînerait une augmentation significative du nombre d'emplois créés. Et les cadeaux faits aux banquiers auraient servi à sauver la France. Le pouvoir d'achat serait nettement en hausse. Et les entrepreneurs seraient étranglés par les charges. Le trou de la sécu est dû aux malades, comme le déficit de la retraite est dû aux vieux. Mais en aucun cas, chiffres à l'appui, nous ne pourrions mettre en cause les exonérations successives dont ont pu profiter les adhérents du MEDEF, que protège la police. Selon la police, les manifestations seraient inutiles et les grèves sans conséquences. Le Parlement aux ordres et les médias à la botte. Toute forme de contestation est parfaitement stérile, dans la mesure où le gouvernement, au service exclusif du capital, selon la police, agit en toute liberté, avec la légitimité que lui confèrent les sondages, qui sont à l'opinion ce que la matraque est à la police, selon elle. Le vrai danger, la seule menace sérieuse, toujours selon la police, c'est l'attentat qui viendra si vous continuez à manifester votre mécontentement. En période de crise, on la ferme. Sinon, on vous apprendra à la fermer en période de guerre, selon Vigipirate. Quand le pouvoir, relais politique et bras armés de la bourgeoisie, décide, pour briser toute résistance, de s'asseoir sur le droit, sur l'expression démocratique de la majorité, quand il campe ainsi sur ses positions et sur ses mensonges sans plus aucun souci de vraisemblance, alors que reste-t-il selon vous ? Bah oui, il reste plus que la police. Sainte Guerre des Chiffres a donc été canonisée au plus haut sommet de l'État, lequel avait commandé à ses services que la mobilisation baissât. Ce qui advint donc, forcément. Aussi vrai que 2 et 2 font 1. Aujourd'hui, mercredi 29 septembre 2010, le soleil s'est levé sur ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour est que l'on dit braqué sur les chiffres et la haine. Il va se coucher, mais déjà il est minuit sur ma fréquence et j'ai mal au globule et accessoirement. C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et le www.campuslille.com.
Dans quelques instants, nous retrouverons notre camarade Saïd Bouamama pour notre habituelle météo de la crise. Mais avant ça, donc un petit reportage que nous avons effectué la semaine dernière, jeudi 23 septembre. C'était jour de grève et dans les rues à Lille, il y avait du monde pour répondre à une seule et unique question, cette réforme des retraites. Alors, on la rejette ou est-ce qu'on la négocie ?
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme. De nous dire que la France avance alors qu'elle pend. Par la répression, stopper net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. Ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
en effet,
comme le veut la société,
c'est un fait, mais
il est temps qu'il se l'absesse. Pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une même vengeresse
brûle l'État.
Policier en premier, hey. On voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper.
Quoi?
Tes neurones tu vois pas, tu fais semblant tu ne m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas.
Voilà
pourquoi cela finira dans le désarroi.
Désarroi déjà roi.
Le monde rira l'en élection.
Désarroi déjà roi.
De subir la même pente.
Agonisante,
c'est pourquoi j'en attends donc. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc là n'est plus à l'indulgence, mais sauf fait par le feu, ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux.
Mais qu'est-ce, qu'on a pas pour contre pas les caisses. Mais qu'est-ce, qu'on a pas pour contre pas les caisses. Mais qu'est-ce, qu'on a pas pour contre pas les caisses. Mais qu'est-ce, qu'on a pas pour contre pas les caisses. Jamais eu à votre place, je ne dormirai pas
tranquille.
La bourgeoisie peut trembler, les guerriers sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons à l'Élysée brûler les vieux. Et bien, faut bien qu'un jour il paye. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Sur nos repères, sur nos modèles de toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai pensé.
Il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Prendre des leçons à mon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines.
Alors arrête
ton tour. Plutôt que cela traîne, ou ne traîne même encore plus de haine. Une édition ne pourra s'inérer ce système.
Mais qu'est-ce qu'on a comme bon pour ça pas les caisses. Mais qu'est-ce qu'on a comme bon pour ça pas les caisses.
Septembre dernier à Lille, Vincent Delbar, secrétaire général de l'Union départementale du Nord CGT.
Les jeunes dans la misère, les jeunes dans la galère, on n'en veut pas de cette société-là. Les jeunes dans la misère, les jeunes dans la galère, on n'en veut pas de cette société-là.
La question, c'est pas de rejeter ou négocier la réforme en tant que telle, c'est d'avoir une vraie réforme. On ne peut pas demander le simple retrait de la réforme actuelle puisque ça voudrait dire qu'on ne revient pas sur les lois Balladur ni Fillon qui aujourd'hui aggravent fortement la situation des retraités qui partent là immédiatement. Et donc on doit tout remettre à plat, on doit revoir les financements. La question des retraites c'est une question de choix de société, c'est un choix politique. Et donc on doit tout remettre à plat. Les financements existent, il y a des réponses possibles pour l'ensemble des salariés de ce pays. Et notamment envers les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, avec la réforme actuelle, 1 million d'entre eux n'auront pas accès à l'emploi pendant que leurs parents vont crever au boulot. Et donc, il faut vraiment tout remettre à plat. Donc la question, c'est pas de demander le retrait de telle ou telle réforme, c'est d'avoir une vraie réforme, un vrai débat citoyen avec les organisations syndicales, les organisations de salariés, pour débattre de ce qu'on veut comme avenir.
Augmenter les emplois.
Est-ce qu'il faut rejeter ce plan ou est-ce qu'il faut négocier?
Il faut le rejeter et renégocier. Parce qu'actuellement, il est absolument injuste. Ne serait-ce que par exemple, ma femme qui va partir en retraite, elle va toucher beaucoup moins que moi, alors qu'elle a travaillé autant, si pas plus. Et puis, il faut arrêter d'être autiste et écouter un peu ce que les gens disent. L'argent, il n'est pas seulement dans la poche de ceux qui travaillent, il y en a ailleurs.
Où ça ?
Et il y en a dans les entreprises, il y en a dans les capitaux qui sont placés. Par exemple, chez nous, on a de l'argent, on a tellement de capitaux propres qu'on ne peut plus donner de participation aux salariés.
Vous êtes où, vous ?
Je suis Flandria Aluminium, une société privée qui est près de Comines. Voilà, donc on renégocie tout ça actuellement parce que on sait mettre de l'argent où on veut, quoi, en fait, aujourd'hui. Quand vous voyez qu'on va encore, par exemple, prendre le petit intérêt qu'avaient les gens de se marier, parce que soi-disant que c'est pas juste pour ceux qui n'en payent pas, mais moi, quand je déshabille Paul, je rhabille jamais Jacques avec l'argent que j'ai pris à l'autre. Donc je ne sais pas toujours taper sur les petits, il faut aller chercher ailleurs. Quoi. Ah, pour moi, on rejette complètement. Oui.
Qui doit payer ? C'est les patrons !
Qui doit payer ?
Qui doit payer ?
Qui doit payer ?
Qui doit payer ?
Moi, négocier d'ici à 60 ans. Laisser comme on était avant et puis ne pas toucher à rien du tout. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai cotisé 45 ans et suis payé 37 ans et demi à ma retraite. Donc, automatiquement, mes 45 ans, j'ai cotisé pour rien. De 40 à 45 ans, hein, j'ai pas pu partir en retraite. J'ai continué jusqu'à 60 ans. Donc, j'ai pris ma retraite à 60 ans. C'est bien qu'il faut laisser à 60 ans. Parce que il y a beaucoup de monde qui est encore au travail, qui vont avoir plus que 40 ans de cotisation déjà maintenant. C'est ça. Alors, je ne voudrais pas que ça reste beaucoup plus haut. Bon, merci. On rejette, soit peut-être pas rejeter. Ne pas toucher à rien.
D'accord.
Voilà, c'est tout.
On touche à rien.
On touche à rien. Voilà.
Vous êtes à la CFDT, hein, c'est ça ? À votre avis, est-ce qu'il faut négocier ? Ou est-ce qu'il faut rejeter ce plan?
Je rejette. Moi, je veux garder la retraite à 60 ans parce qu'il y a pas mal d'argent qui est que les riches possèdent et que, comme maintenant, on est en train d'appauvrir la classe moyenne et puis la basse classe, quoi. Donc c'est pour un petit peu pour ça que je suis pas content et je voudrais qu'on répartisse l'argent comme il faut dans le pays. Voilà.
Donc ce truc-là, on le rejette. On négocie pas.
On négocie, bah si, on rejette déjà en bloc la 60 ans. 62 ans, on veut pas, on veut 60 ans. Voilà.
Augmentez les emplois, baissez les
emplois. Alors, à l'UFSA, à votre avis, est-ce qu'il faut rejeter ?
Il faut voir le secrétaire général.
D'accord. Non mais vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut rejeter ce plan ou est-ce qu'il faut négocier ?
Il y a des choses à négocier, je pense. Hein. Et puis, comment dire, il y a des choses qui sont aberrantes. Nous c'est surtout la pénibilité. C'est surtout ça qui ne va pas dans ce plan-là. Après, c'est les revendications nationales qu'on est tout à fait d'accord avec ce que notre syndicat a eu comme ligne de conduite. En général, ça correspond aussi à ce qui est... à ce qui a été... comment c'est ce qui est... ce qui est conclu avec l'intersyndicale nationale.
Hein. Et c'est quoi ? Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la ligne de conduite de votre syndicat, alors ?
Moi, je pense qu'il faut faire... Franchement, je pense qu'il faut négocier au maximum. Il n'y a pas d'autre solution. Franchement, je ne sais pas comment trop aborder le sujet. C'est vrai qu'il faut peut-être faire quelque chose, mais je pense qu'ils s'y prennent par le mauvais bout, comme on dit, quoi. Il ne faut pas tout le temps taper sur les mêmes, quoi. Je pense que c'est le principal. Et il n'y a que ce genre de manifestation qui permettra de faire évoluer les choses.
D'accord. Voilà. Dans le sens de la négociation.
Dans le sens de la négociation. Dans un premier temps. Puis on verra bien si après, si ça ne fait pas bouger les choses. On verra bien comment ça va évoluer.
Ok, très bien.
Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras.
Et cette ligne de conduite, est-ce que c'est celle de toute la CFTC ?
Bien sûr. Nous, notre ligne de conduite, c'est d'abord la négociation.
Ah, moi, je pense qu'il faut le rejeter. Voilà, j'ai répondu à votre question. Non, mais je pense qu'il faut le rejeter parce que c'est une loi qui n'est pas équitable pour tous les salariés, en particulier pour les femmes qui ont des retraites en pointillé. Donc, ce sont encore, moi je parle en tant que femme là, hein, ce sont encore les femmes qui vont payer, qui n'auront pas une retraite complète, qui vont être obligées de travailler jusqu'à 67 ans. Voilà, qu'est-ce que je dise de plus ? Donc, on ne peut pas accepter cette réforme-là. On rejette.
Augmentez les emplois !
Il faut le rejeter complètement, parce que pour moi, ce n'est pas une réforme équitable, celle des retraites. Il y a encore beaucoup de jeunes qui sont sans travail et on veut faire continuer les vieux à travailler sous prétexte de leur longévité. Comme a dit Fillon, les enseignants sont comme des ecclésiastiques. Alors il ne faut quand même pas exagérer, non ? On va porter une soutane bientôt.
tous, on a le moral, on envisage la grève générale.
Vu les conditions là, des concessions qu'a fait le gouvernement, qui sont des concessions ridicules à mon sens, il faut rejeter, enfin partir sur la base des négociations qu'a proposé le gouvernement, pour moi, c'est pas du tout utile, c'est pas progressiste. Voilà. Tant que l'effort il restera, ça restera sur le salarié, sur ce que le salarié doit faire et qu'on taxera pas le revenu du capital, pour moi ça sera pas bon. Donc voilà. Je suis pour quelque chose d'un petit peu plus radical.
Je rappelle une chose, il faut le rejeter parce qu'en fait, le problème du financement des retraites, c'est ce qui résulte de la crise financière. Est-ce que nous, en tant que salariés, on doit payer tout ce qui est le subprime, toutes les choses qu'ils ont jouées avec l'argent, si c'est le capitaliste, est-ce que c'est à nous d'être les payeurs alors qu'on a donné beaucoup d'argent aux banques qui ont joué à l'apprenti sorcier? Voilà. Hein, et puis il faut voir aussi que, en fin de compte, je dirais simplement que d'un côté, nous, on produit un travail, on produit un salaire, on produit une richesse. Et malheureusement, elle est de moins en moins partagée par les ouvriers. Et que Vatron, lui, il joue avec des choses qui ne sont pas trop son ressort. Là, je dirais simplement, au niveau tout ce qui est action, business, et on voit les catastrophes que ça mène.
Est-ce qu'il faut le rejeter ou est-ce qu'il faut négocier?
Il faut le rejeter carrément, complètement, globalement, massivement et définitivement.
Cette société-là les yeux dans la misère, les jeunes dans la galère, on n'en veut pas de cette société-là. Les yeux dans la misère, les jeunes dans la galère, on n'en veut pas de cette société-là.
Moi, je crois que travailler au-delà de 60 ans, c'est une aberration. C'est vrai que nos anciens, nos grands-parents ont peut-être travaillé plus tard que nous, mais il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de stress au travail, il n'y avait pas une vie de dingue comme on vit maintenant. Et maintenant, ce qui nous tue au travail, c'est surtout la pression, le stress, la polyvalence et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, on nous fait croire que ceci, que cela, qu'il n'y a pas de sous dans les caisses, que patati, que patata, qu'on fait déjà ramener l'argent de où il vient, c'est-à-dire tout ce qui est entreprises qui ne payent pas leurs cotisations et patati patata, et on arrivera à payer les retraites par répartition. Maintenant, 60 ans, moi je trouve que c'est largement assez, malgré l'espérance de vie qui est beaucoup plus longue. À 60 ans, on peut faire plein d'autres choses et s'intégrer dans la vie sociale et dans la vie culturelle ainsi que dans la vie associative. On en a l'exemple juste à côté, donc moi je crois que 60 ans c'est très très bien. Maintenant, on sait pertinemment que ici c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais moi personnellement, je crois qu'il faut durcir le mouvement, rejeter cette réforme qui est en train de faire mourir les gens un petit peu et les faire mourir au travail. C'est pas le but. On est une société quand même démocratique. Le but, c'est qu'on vive bien dans une société, qu'on y travaille bien et qu'on puisse avoir une retraite pour pouvoir s'occuper de sa famille et de ses petits-enfants et continuer une vie associative et culturelle. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument rejeter cette réforme, aller chercher l'argent là où il est. Et croyez-moi, il y en a. Arrêtez de taper sur les petits, c'est-à-dire les travailleurs. On devient de plus en plus des travailleurs pauvres. Je peux vous dire que même dans le milieu hospitalier, là où on est soi-disant des privilégiés, c'est-à-dire fonctionnaires, la fin du mois, c'est souvent avant le 15. Quand les gens ont tout payé, ils n'ont plus rien du tout. Et les retraites, on a des retraites de misère. Mais croyez-moi que l'argent, il y en a. Donc qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule et qu'ils aillent chercher l'argent là où il se trouve. Et moi, je crois que le mouvement, il faut qu'il se durcisse et que, comme en 1789, c'est pas tous à la Bastille, mais tous à l'Élysée et tous à l'Assemblée.
Ah, il faut absolument pas négocier. Hein. Si vous voulez négocier le plan, c'est pas dans le cortège de la CGT qu'il faut aller, c'est plutôt du côté de FO, CFTC, CFDT. J'espère que la ligne CGT est plus claire que celle-là. Quoi. En tout cas, en ce qui nous concerne, je parle pour ce que je représente, c'est-à-dire les salariés de ma boîte. On est complètement contre la négociation de ce projet et on demande le retrait du projet pur et simple.
D'accord. Et c'est quoi ta boîte ?
Alter, cabinet d'expertise comptable.
Qui doit payer ? C'est les patrons ! Qui doit payer ? Qui doit payer ? Qui doit payer ? Qui doit payer ?
Radio Campus.
Garce, salope, ordure.
106,6.
Tu me fends le cœur.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, les laissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel, l'Odéon, partout l'amitié. La Sorbonne libre, ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volés. La Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus. Je pense que vous l'auriez deviné. Nous avons, comme très régulièrement, quasiment chaque mois, dans les studios, notre camarade Saïd Bouamama qui vient nous faire un petit peu ce qu'on a appelé ici, de manière un peu triviale, la météo. Bonsoir Saïd.
Bonsoir.
La météo, en quelques mots, pour l'instant,
couverte. La météo, on va dire qu'elle est à la fois couverte et à la fois avec un soleil rouge extrêmement intéressant quand on écoute les paroles de ces manifestants. Donc il y a du soleil dans l'air.
Alors ouais, tu vas nous parler ce soir un petit peu des classes sociales. On va ramener encore à nouveau ici, et sans aucune vergogne bien évidemment, notre ami, si je puis dire, Karl Marx. Hein,
absolument.
Comme base hein, pour parler. Et justement, dans ce reportage qu'on vient d'entendre, hein, bon, c'est vrai que c'est Ali qui tenait le micro, je le soupçonne d'avoir traîné un petit peu du côté des défilés où on est en bleu, ou en tout cas on n'est pas en rouge, histoire de se moquer un petit peu. Hein.
Oui,
mais, si tu l'as fait.
Même dans les cortèges qui n'étaient pas rouges, il y a eu des choses intéressantes. Voilà.
Et justement, moi ce qui m'a semblé, c'est que, à propos de classe sociale, justement, dans ce qu'on a entendu, tout n'est pas très clair, justement. Les positions ne sont pas très claires. Une réaction peut-être à ce que tu as entendu sur donc, la question qui était, est-ce qu'il faut rejeter ou négocier, quoi, hein.
Alors deux choses, la première c'est on entend avec plaisir dans des cortèges très différents puisque je crois qu'un des cortèges, je te demandais, tu me disais c'était CFDT ou même CFTC, on entend le retour de certains mots qui avaient eu tendance à disparaître ces dernières décennies. Hein. J'en ai noté quelques-uns.
Je rappelle que tu es sociologue de formation. Hein.
Quelques-uns. Le terme classe ouvrière qui revient dans un slogan, te crier, etc. Le terme de capitalisme qui est dans un autre slogan. Le terme de faire payer les patrons. La classe qui produit les richesses, c'est elle qui devrait bénéficier de ces richesses. On entend ce type de raisonnement et ce type de mots qui avaient eu tendance à disparaître ces dernières années par l'offensive idéologique d'État. Hein. On y reviendra après. Depuis de nombreuses années, on essaye de nous faire croire que les classes n'existent plus. Et là, ça fait plaisir d'entendre les manifestants reprendre ces mots et ces repères de conceptuels. Et puis, à côté de cela, on voit aussi qu'on sort de près de 30 ans d'idéologie bourgeoise qui ont été diffusées par tous les médias avec cette idée qu'en gros, on serait devant une difficulté, qu'il faudrait partager les efforts. On entend certains manifestants dire « oui, ils exagèrent ». En gros, s'ils acceptent de partager un tout petit peu plus justement, d'accord pour la réforme, mais pas celle-là. En oubliant tout simplement que, en fait, la question des retraites, c'est comme toutes les autres questions liées aux revenus. La retraite n'est qu'un revenu différé. C'est comme la question du salaire. C'est comme la question de la réduction du temps de travail. Tout ce que les travailleurs ne prennent pas, la classe bourgeoise le prend. On a affaire à des vases communicants. Le rapport capital-travail est antagoniste. Et donc, ce n'est pas un problème d'effort commun. C'est un problème de qui pille et qui est pillé. Or, depuis 30 ans, bah, la classe ouvrière, on y reviendra tout à l'heure, n'a pas cessé d'être pillé et surpillé. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas un partage d'un effort nouveau, c'est de récupérer par la classe ouvrière, d'abord qu'on ne lui en prenne pas plus, mais de récupérer ce qu'on lui a pris.
Tu parlais d'effort commun, c'est effectivement ce qui transparaît dans le discours bourgeois. Allez, on va dire les choses telles qu'elles sont. Effectivement, la tactique, la stratégie de la bourgeoisie, c'est effectivement de faire croire qu'il y a la France à sauver, il y a le système des retraites à sauver.
Et on est tous dans le même bateau.
Et on est tous dans le même bateau. Ça c'est une évidence, hein. C'est le discours du gouvernement. Ce discours, il pénètre, tu viens de le dire, à la fois, enfin, il pénètre chez les manifestants, mais parfois il coexiste avec aussi ce qu'on a entendu dans les deux points que tu as donné finalement, hein. Tout n'est pas encore très clair. Est-ce que les stratégies syndicales aussi, on en a déjà parlé, est-ce qu'elles favorisent pas aussi cette espèce de brouillage, quoi?
Absolument. On a aujourd'hui une situation dans laquelle nous n'avons pas encore récupéré notre vocabulaire, nos analyses. Et donc aujourd'hui, même quand il y a prise de conscience, c'est mélangé avec des éléments qui viennent de l'idéologie bourgeoise. Quant à la stratégie des syndicats, oui, le moins qu'on puisse dire, c'est à l'heure d'aujourd'hui qu'elle n'est pas tout à fait clarifiée. J'entendais la CFDT proposer à la... J'entendais à la radio tout à l'heure, la CFDT proposer au gouvernement de reporter... à 2015, donc c'était en gros si le gouvernement, si vous acceptez ça, il y a une base d'accord, à 2015 le passage de 65 à 67 ans, sans dire un mot sur le passage de 60 à 62 ans, donc on voit bien que tout n'est pas très au clair dans les directions syndicales. Et donc du coup les syndiqués à la base, dans leurs unions locales, dans leur section syndicale, sont contraints de faire leur propre analyse avec 30 ans d'idéologie bourgeoise derrière, et donc même les prises de conscience sont encore embrumées. Et c'est pour ça que des émissions comme les vôtres sont essentielles. Il faut qu'on se réapproprie notre vocabulaire, qu'on se réapproprie nos modes d'analyse. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une réalité nouvelle. Je vous rappelle que le marxisme a été formalisé, théorisé par Marx, Engels et d'autres, justement pour casser l'idée qu'on était dans le même bateau. Pour montrer qu'en réalité nous ne sommes pas dans le même bateau et qu'il y a des classes sociales qui sont dans des bateaux différents. Et que l'enjeu, c'est quel est le bateau qui va prendre la cargaison de l'autre. Et c'est comme ça que le marxisme s'est d'abord théorisé, de montrer qu'il n'y avait pas une nation, mais que dans la nation il y avait des classes. Et que les classes avaient des intérêts contradictoires.
On va y revenir.
Oui. Je veux revenir sur le début. On avait parlé de cortège rouge et cortège bleu. Je ne pense pas qu'il y ait un seul cortège ou une seule couleur qui rejette. Une seule couleur qui rejette, une seule direction de couleur. Les cortèges, la majorité des cortèges rejettent toutes les directions de toutes les couleurs négociées. Ça, c'est la première question. Et puisqu'on parle de vocabulaire, la preuve, c'est que la direction de FO, qui n'est pas connue pour être rouge, machin, appelle à la grève illimitée, grève générale, etc., etc. La deuxième, c'est sur notre vocabulaire, entre guillemets. Nous, on se revendique et on le dit, tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté, hein, nous, c'est la classe ouvrière, c'est la lutte des classes, et c'est par la lutte des classes qu'on obtient... bref, les classes sociales et les revendications de classe étaient limitées géographiquement. Est-ce qu'il y a une explication sociologique ?
C'est quoi
C'est limité géographiquement. Hein, ce n'est pas ceux d'Aluin qui ont appelé dans leur slogan qui disait la classe sociale, classe ouvrière, etc., etc. C'était limité dans certains bassins miniers du Pas-de-Calais. Donc, je n'ai pas entendu, moi, même les JC qui sont à la pointe, parfois dans les jeunesses communistes, et les étudiants communistes, etc., je ne les ai pas entendus parler de lutte de classe ou de conflit de classe ou d'appartenance de classe. C'est limité à géographie.
Alors,
est-ce qu'il y a une explication ?
Oui, il y a une explication. Tu décris bien la situation aujourd'hui du monde du travail et de la classe ouvrière plus précisément, qui est qu'après 30 ans de flou idéologique, de contre-offensive de la bourgeoisie, avec l'absence d'organisation ouvrière claire sur ses revendications depuis 30 ans, oui, les prises de conscience sont hétérogènes. Ça va dépendre de militants concrets qui ont, dans leur UL, dans leur section syndicale, clarifié des choses. Ça va dépendre de luttes sociales qui ont eu lieu et qui ont permis une clarification. Parce que les luttes, quand il y a des luttes dures, ça permet de retrouver son vocabulaire. Et donc, comme ça n'a pas été homogène au niveau national, dans tous les lieux géographiques, oui, ça dépend des bassins. Et vous pouvez trouver des endroits dans lesquels, eh bien, vous verrez que le terme de classe sociale est maintenant un terme revenu de manière courante, alors que dans d'autres endroits, on va encore employer des termes flous. Ça dépend de ce qui s'est passé ces dernières années en termes de lutte, de ce qui s'est passé en termes de militantisme, donc des responsables syndicaux concrets qui ont porté ou qui n'ont pas porté ces dimensions-là. Et c'est toute la difficulté d'aujourd'hui qui est que dans le mouvement, ce n'est pas seulement des revendications qu'il s'agit de produire. Ça, c'est très bien. Et j'espère qu'on montera en force et qu'on gagnera sur le combat sur les retraites. Mais c'est aussi dans le combat que s'homogénéise la prise de conscience. Ce qu'on a à gagner dans un combat dur aujourd'hui, si nous arrivons à aller sur une grève qui dure, etc., ça ne sera pas seulement de gagner sur les retraites, ça sera aussi de faire avancer la conscience de classe, c'est-à-dire d'homogénéiser les prises de conscience, alors qu'aujourd'hui on a des situations retardataires à certains endroits et des situations d'avant-garde à d'autres endroits, mais on n'a pas affaire à une prise de conscience unie.
C'était la question géographique.
Cette question-là, le problème ou la question de retraite, c'est quand même le capital contre les travailleurs. Ce n'est pas une question symbolique sur des sans-papiers, sur ceci, sur homosexuel ou pas homosexuel, ou mariage ou bazar, etc., etc. J'ouvre juste une parenthèse. C'est que maintenant, dans les cités, il y en a qui veulent déclarer la lutte contre l'homophobie, etc., dans les quartiers. Dans la banlieue, c'est comme si c'était une revendication. Bref, ça c'est une question qu'on traitera ici parce qu'il n'y a aucune raison. Je dis la retraite, c'est le capital contre le travail. Ça c'est clair, c'est net et précis. Si on n'arrive pas à mobiliser là où c'est une question de classe, c'est qu'il y a un problème, pas chez les autres, mais chez nous. Et c'est pour ça qu'ils ne reculent devant rien.
Bien sûr. On est d'accord, c'est ce que j'essayais de dire juste avant.
La question géographique, justement, peut-être qu'elle s'illustre par une prise de position qui date d'hier, je pense, de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Alors, Dieu sait, les Bouches-du-Rhône, c'est pas rien. Hein, les manifs à Marseille, selon la police, ça regroupe pas grand monde, mais selon les manifestants, ça regroupe énormément de monde. Il y a un appel à une grève reconductible, c'est ça ?
Absolument. Mais ce qui n'est pas étonnant, compte tenu de la dynamique de lutte dans les Bouches-du-Rhône depuis maintenant près d'une dizaine d'années, où effectivement, on a vu réapparaître des slogans de classe, on a vu se développer des déceptions par rapport aux décisions nationales des syndicats. Et il y a un effet, rappelez-vous le cours qu'on avait fait sur la dialectique ici, hein, le quantitatif finit par se changer en qualitatif. C'est-à-dire qu'à force de se mobiliser, de faire des grèves plus dures dans la région marseillaise, eh bien oui, à force de faire cela, les prises de conscience dépassent un seuil qualitatif. Et ce n'est pas un hasard qu'on en arrive à ce type de mot d'ordre qui n'est pas un mot d'ordre démagogique dans les Bouches-du-Rhône. Peut-être qu'ailleurs, il serait trop prématuré de le lancer, mais en tout cas, dans les Bouches-du-Rhône, ce n'est pas étonnant, compte tenu de la géographie, justement, et de l'histoire des luttes sociales des Bouches-du-Rhône et de l'histoire syndicale des Bouches-du-Rhône. Parce que dans les Bouches-du-Rhône, ce n'est pas les travailleurs qui sont devenus spontanément plus radicaux. C'est bien le travail de militants qui s'étant réapproprié ce vocabulaire et cette analyse, l'ont diffusé dans leur syndicat, et en 10 ans, ont réussi à faire un état de conscience qui est plus en avance que sur d'autres territoires.
Donc plusieurs. Un appel à la grève reconductible, on le rappelle, donc dans les Bouches-du-Rhône, qui considère qu'en fait, entre le 2 et le 12, il y a trop de distance et qu'il faut maintenir la pression. Alors justement, le 2, on va le dire quand même, hein, il y a donc un rendez-vous ici très important. Tous les rendez-vous sont importants justement pour faire grandir cette conscience de classe et cette nécessité de se battre pied à pied contre la bourgeoisie. C'est le 2 octobre, c'est donc samedi prochain, à 14h30, porte de Paris, à Lille. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose, je ne sais pas si les médias en ont parlé beaucoup, mais aujourd'hui, ça y est, il y a eu une grève générale. C'était pas chez nous.
En Espagne. En Espagne, avec des taux, n'attendez pas que les médias vous en disent beaucoup de choses. C'est des taux qu'on n'a jamais connus dans l'histoire espagnole, et même dans l'histoire européenne. Et dans l'histoire espagnole, il faut remonter au grand moment des joies sur la chute de Franco, etc. 70% de grévistes.
70% aujourd'hui, en Espagne.
En Espagne. C'est dire l'état de ras-le-bol de l'ensemble des travailleurs européens, puisque ce qui arrive aux travailleurs français, et on le sait bien, quelque chose qui arrive à tous les travailleurs européens.
D'ailleurs, il y avait une manif aujourd'hui à Bruxelles, à l'appel de la CES.
Hein. Oui, on pourra reparler de la stratégie des manifs à Bruxelles, mais.
Ouais, on n'en reparlera pas d'ailleurs, mais justement.
Je préfère les Espagnols qui ont décidé que
c'est. De rester à Madrid.
À Madrid. 70% de grévistes, plus de 100 000 manifestants à Madrid. La manif est partie à 18h, et au moment où j'arrivais, ils disaient qu'ils étaient dans l'incapacité de chiffrer, puisque les cars continuaient à arriver, et ils évaluaient déjà à 100 000 personnes. C'est dire qu'on est devant un moment. Qui est un moment en termes de rapport de classe qui est particulier dans toute l'Europe. Et tout dépendra après de comment on va être dirigé, comment vont être dirigées ces luttes. Et c'est vrai que là, ça dépendra de la pression qu'on est capable de faire sur nos syndicats, de ce que nos syndicats vont faire de cette mobilisation. Mais en gros, il y a les bases objectives à des victoires de classe. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des bases objectives à une victoire de classe. Pour qu'il y ait une victoire de classe, il faut aussi les bases subjectives, c'est-à-dire une clarté dans ce qu'on veut, une direction pour les mener et ne pas céder devant les pressions de l'ennemi.
Tu as un petit peu d'optimisme par rapport à ça?
Alors,
parce que ce qui règne quand même dans la classe ouvrière aujourd'hui, avant qu'on parle de classe, théoriquement, c'est un vrai dégoût, pessimisme, fatalisme, etc. Alors, on sait, nous, toi et moi, que ça peut aller très vite, que les choses peuvent changer très vite. Est-ce que tu crois que c'est en train de changer en ce moment?
Je crois que si nous sommes capables d'imposer à nos directions que les journées d'action soient rapprochées, que si en même temps, dans certaines régions comme les Bouches-du-Rhône, des dynamiques de grève reconductibles soient prises, que s'il y a des appels aux grèves reconductibles dans certaines fédérations où c'est mûr, la mayonnaise peut prendre très vite. Alors je ne suis pas devin, donc je ne peux pas dire ça va prendre, mais les ingrédients sont là pour que ça puisse, à partir d'une région, à partir d'une industrie, à partir de syndicats qui sont un peu en avance, et à partir d'une colère de masse, mais une colère avec un sentiment d'impuissance, le sentiment d'impuissance puisse se transformer en mouvement. Et tu as raison de souligner que ça peut se transformer très vite. Je rappelle tous les auditeurs qui ne me croient pas. Regardez les journaux. Vous allez à la bibliothèque de Lille. Regardez les journaux de début juin 1968. Je dis bien début juin. Hein, on dit mai 68. Pour le mouvement ouvrier, c'est juin en fait. Il y a eu quelques mouvements en mai, mais c'est en juin qui est le grand mouvement. En réalité, on devrait fêter juin 68 et pas mai 68. Mai 68, c'est les étudiants. Juin 68, ça a été l'entrée en masse de la classe ouvrière. Eh bien, quelques semaines auparavant, il y a des journaux qui titraient, je crois que c'est le Figaro, ou je ne sais plus, enfin qui titraient « Calme plat dans le monde ouvrier ». Quelques semaines après, on a eu le mouvement
9 millions, entre 9 et 11 millions de grévistes, c'est un calme plat.
En réalité, ce que je veux souligner par là, c'est que dans des mouvements sociaux, le temps peut s'accélérer à un rythme extrêmement important. Et ce qui permet l'accélération du temps, c'est l'idée qu'un espoir de victoire est possible. Et l'idée de victoire est possible en fonction, bah justement, est-ce que les Bouches-du-Rhône vont réussir à tenir même plusieurs jours, mais qui soient plus que les journées 24 heures reconductibles? Est-ce que les appels à la grève illimitée vont devenir plus nombreux? Est-ce que ce débat-là va sortir de quelques cercles pour devenir un débat? Même si certains sont contre, mais en tout cas que ça se débatte et qu'on dise « mais nous, on la veut », ça peut subjectivement très vite entraîner une transformation. Et donc ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais rien n'est perdu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains nombres de nos directions syndicales sont un peu inquiets, ayant envie à la fois d'arracher des concessions pour dire « regardez, on sert à quelque chose », mais ayant peur d'être débordé par un mouvement qui, prenant conscience, ne s'inscrit plus simplement dans une stratégie de négociation à court terme.
Alors il y a du côté du pouvoir, et donc allez, puisqu'on va parler de classe sociale, du côté de la bourgeoisie, Est-ce qu'il y a une ignorance? Je pense qu'il y a à la fois une méfiance, sans doute, et une très nette attention à ce qui se passe dans les classes populaires. En même temps, il y a peut-être une ignorance, comme le Figaro. Alors, est-ce qu'elle est feinte ou pas, de ce qui est en train de se passer dans les classes populaires? Quelque chose qui est difficile parfois à deviner. Finalement, il y a plein de gens qui peuvent se poser la question. C'est quoi une classe sociale, selon Marx?
Alors, selon Marx...
Parce que, voilà, des fois la frontière, elle est un petit peu floue. Et puis, on voit que même la classe sociale qui est au pouvoir a parfois du mal, peut-être, à voir celle qui est dominée. Et vice-versa, d'ailleurs.
Avant de répondre à la question qu'est-ce qu'une classe sociale, il faut peut-être ensemble se rappeler... que les théories qui, depuis 30 ans, se sont accumulées pour nous dire qu'il n'y en a plus, ou ça change. Alors, je voudrais en rappeler quelques-unes, les plus importantes. Hein. La moyennisation de la société. On a eu des dizaines d'ouvrages pour nous dire qu'il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus de bourgeoisie, tout le monde a acquis, donc c'est les classes moyennes qui seraient devenues le cœur de la société, et on aurait 95% de classes moyennes, un ou deux voyous spéculateurs, et puis en dessous, oui, il reste quelques miséreux, mais globalement, il y a moyennisation de la société. C'est des dizaines de livres qu'on a diffusés autour de ça, des centaines d'émissions télévisées, c'est des commentateurs à prétention savante, à France Inter, à France Culture, qui tous les matins nous ont diffusé cette théorie-là.
Et puis le Parti Socialiste.
Et le Parti Socialiste, bien sûr, qui était le porteur de ça. La société se serait moyennisée, donc abandonnant notre vocabulaire du 19e siècle qui parle de classe ouvrière et de bourgeoisie, de lutte des classes, c'est archaïque. Et il faut de nouvelles théories sur cette moyennisation. Seconde théorie qui a été mise en avant, ça a été de dire, mais on ne peut plus parler de classe ouvrière parce que maintenant, il y a tellement de salariés, donc on est tous des salariés. Même le PDG est salarié. Mm-hmm. Donc on confond le fait qu'il y ait la propriété du capital et le fait qu'il y ait un PDG qui soit salarié. Donc, en gros, tous ceux qui sont salariés auraient les mêmes intérêts. Qu'ils soient PDG ou qu'ils soient balayeurs dans l'entreprise, ils auraient les mêmes intérêts. Ça a permis de justifier la théorie de quelques patrons voyous et la grande masse, même des entrepreneurs qui seraient à préserver, à défendre, etc. À les entendre, des fois, il y a certains patrons qui seraient progressistes, hein, si on entend cette théorisation.
On n'a plus de propriété privée des moyens de production. On a des sociétés anonymes à laquelle peut participer éventuellement le petit salarié, le balayeur, etc., peut acheter quelques actions. Et on est tous égaux.
Ah, absolument. Et ça, bon, comme tu as cité un parti, je vais en citer un autre. Là, c'est en gros le PCF qui a mis en avant cette théorie-là. Hein. Et puis, troisième théorie, on va limiter la classe ouvrière on va limiter le prolétariat à uniquement les travailleurs des grosses industries, etc., au moment même où la stratégie de la bourgeoisie est de casser les bastions ouvriers, de démanteler, donc de répartir en plusieurs petites entreprises les grands bastions. Et donc, du coup, bah oui, il y a une réduction. Et ça, les trotskistes ont été... nous, on veut travailler qu'avec les travailleurs purs, hein, les vrais, comme dans les images. Et donc, en oubliant que la classe ouvrière, c'était pas simplement les sidérurgistes, même si les sidérurgistes sont dans le cœur de la classe ouvrière. Hein, c'est pas ça qu'il s'agit. Donc, on voit bien que ça fait quand même 30 ans qu'il y a plein de théories qui sont diffusées et qui nous empêchent de comprendre la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe? Ben, une classe, c'est un groupe d'hommes qui a des intérêts communs parce qu'ils sont situés à la même place économique. Voilà ce que c'est qu'une classe. C'est tout simplement regarder au-delà de dire « nous sommes des Français ». Marx a dit « attendez, nous sommes des Français, on va les regarder plus près ». Dans les Français, là, il y a qui possède les moyens de production et qui ne les possède pas. Ben, ce critère-là permet de distinguer deux groupes d'hommes. Qui a intérêt à telle mesure et qui n'a pas intérêt à telle mesure. Ben, ça donne deux intérêts, ça distingue deux groupes d'hommes. Donc les classes sociales, c'est au-delà des appartenances nationale, religieuse, de couleur de peau, etc., d'aller regarder qui est où dans l'appareil productif, dans la production des richesses et dans l'appropriation des richesses. En gros, il y a ceux qui possèdent les moyens de production et qui donc peuvent s'approprier les richesses, et ceux qui n'ont que leur force de travail et qui donc sont contraints de travailler pour les propriétaires des moyens de production qui s'accaparent de leur production.
Les seconds, là, c'est les salariés. Et justement, parmi ces salariés, il y a différentes catégories. Hein, sans aller jusqu'à l'exemple que tu donnais du petit patron, il y a des cadres. Ces cadres-là, ils sont salariés, ils ne sont donc pas possesseurs de l'outil de production. C'est un petit peu, là, je reprends l'antienne de la classe moyenne. Hein, mais ces gens-là, ils se situent où finalement? Parce qu'ils existent quand même. Je veux dire, ils sont salariés. On sait aussi que même dans certains syndicats, y compris les plus progressistes possibles, il y a des cadres. Et en même temps, on sait que souvent, bien souvent, ces cadres, culturellement, socialement, ils s'attachent plutôt à la classe des possesseurs, dont ils ne font pas partie.
Alors, c'est intéressant.
Est-ce que cette évolution-là, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'on peut la chiffrer?
Oui, oui. Tu soulignes un aspect qui est essentiel. Les économistes bourgeois ont regardé à la lettre près comment on pouvait montrer que Marx était trompé. Donc, ils ont bien lu Marx. Et ils sont aperçus que dans un de ses ouvrages, Marx dit il y a deux classes, la bourgeoisie et le prolétariat. Et dans d'autres, comme la guerre civile en France, donc c'est le Capital, il dit il y a deux classes. Et dans la guerre civile en France, il dit il y en a sept. Ils disent ah, la preuve que Marx était contradictoire. Sauf que ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans le Capital, Marx parle d'un capitalisme pur. Donc je prends les classes fondamentales.
On est dans la théorie, voilà, économique. Dans la théorie,
et je mets de côté les classes qui ne sont pas intermédiaires, centrales, intermédiaires, etc. Et dans la guerre civile en France, il regarde les classes réelles de la cité française. Il dit il y en a sept. Alors, comment avoir un paysage global? En gros, il y a la bourgeoisie qui possède les moyens de production.
La bourgeoisie
possède les moyens de production. Après, vous avez toutes les catégories qui ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production. Dedans, dans cette grande catégorie-là, vous avez plusieurs classes. Vous avez ceux qui produisent de manière directe ou indirecte. Alors, ceux qui produisent de manière directe, donc qui produisent de la plus-value de manière directe,
c'est
la classe ouvrière. Ceux qui produisent de manière directe plus indirecte, si on rajoute ceux qui produisent de manière indirecte, eh bien, c'est le prolétariat. Le prolétariat, c'est tous ceux qui ont que leur force de travail à vendre.
Et ensuite, pour être précis, il y en a qui fabriquent les chaussures, ça c'est la classe ouvrière. Celui qui les vend, ça c'est indirect, c'est l'employé, mais tout ça c'est le prolétariat.
Absolument, les employés font partie du prolétariat, et la clarté là-dessus...
Mais la richesse à la base, c'est la classe ouvrière.
C'est la classe ouvrière qui l'a produit, mais le prolétariat est exploité aussi, puisqu'on essaie de le faire travailler le plus possible, donc c'est le prolétariat qui est exploité en général, mais c'est la classe ouvrière qui produit la plus-value. Parce que si avec la classe ouvrière, on aurait une production de plus-value,
on ne pourrait pas réaliser le profit.
On ne pourrait pas la transformer, donc c'est bien l'unité du prolétariat qui intéresse les travailleurs. Et puis après, il y a d'autres catégories qui sont dans l'entre-deux. La petite bourgeoisie, par exemple, qui est nécessaire au fonctionnement de la société. On aura besoin de profs aujourd'hui ou même dans une société
libérée. Les enseignants de Lille 1.
Oui, on aura besoin d'eux. Pourtant, ils ne produisent pas de plus-value. Mais même dans une société où c'est les travailleurs qui seront au pouvoir, on aura des enseignants. C'est-à-dire que ça sert aux travailleurs aussi d'avoir des enseignants, donc on en a besoin. Et donc, mais ils n'appartiennent pas au prolétariat. Mais ils sont aussi oppressés, opprimés, exploités, etc. Et donc, en réalité, ce qu'il faut distinguer, c'est la classe qui a intérêt à changer la société jusqu'au bout, c'est le prolétariat. Ensuite, vous avez ceux qui, en fonction du rapport de force, vont aller de tel côté ou tel côté. C'est très clair que les enseignants, aujourd'hui, commencent à se rendre compte que leur sort est lié à celui du prolétariat. Mais il y a quelques années, on utilisait les enseignants contre les travailleurs, hein. On utilise les enseignants comme symbole de celui qui veut réussir, il peut regarder, on a des enfants d'ouvriers qui sont devenus enseignants,
on
etc.
On continue à le faire quand même, Pécresse a réussi quelques pirouettes et elle a réussi à diviser assez largement beaucoup de professeurs et d'enseignants-chercheurs dans l'université. Je prends l'exemple des universités du Nord.
Alors, la distinction est importante au niveau de... En particulier, je m'adresse aux camarades syndiqués, aux camarades responsables syndicaux. Elle est essentielle. Parce que ça veut dire que, d'un côté, nous avons deux opérations à faire. Nous avons une première opération qui s'agit d'unir notre classe. Employés et ouvriers, comment nous construisions l'unité de la classe des prolétaires. Ça, c'est de l'unification.
D'autant plus que, par exemple, entre celle qui sert un hamburger au McDonald's et celui qui produit sur une chaîne de production, j'ai envie de dire sur les conditions de travail et tout ça, c'est...
Absolument. Et donc là, il ne s'agit pas de s'allier, il s'agit de s'unir.
Ouais.
Avec la petite bourgeoisie et les cadres, il s'agit de s'allier, parce qu'ils ont aussi intérêt à des changements, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des travailleurs. Et un des problèmes, justement, dans l'organisation syndicale, c'est lorsque on met en avant les cadres. Je pense en particulier, pour ne pas cacher à vos auditeurs, moi j'étais contre la création au sein de la CGT d'un syndicat cadre. Je préférais quand les cadres étaient organisés dans leur syndicat de branche, parce que là ils étaient avec leurs autres camarades d'autres professions, mais de la même branche, etc. L'organisation à part des cadres, c'est un choix politique. Alors pourquoi pas, mais à ce moment-là, distinguons. Avec eux on s'allie, avec les autres on s'unit. C'est pas tout à fait la même chose.
Alors la classe ouvrière, justement. Alors. Si on considère aujourd'hui le monde ouvrier en France, si on regarde les statistiques, etc., il me semble que les ouvriers stricto sensu, certainement des chiffres discutables, ça correspond à 20% de la population active en France. Il y a les chômeurs aussi, hein, et puis on parlait des employés, etc. Est-ce que c'est une classe sociale qui est encore centrale aujourd'hui?
Alors d'abord un petit mot sur les statistiques.
Oui.
Là, je ne vais pas me référer à Marx, vous m'excusez. Pour ceux qui n'aiment pas la théorie marxiste, vont encore se tirer les cheveux. Je vais me référer à Lénine. Lénine disait, pour la statistique bourgeoise, c'est autant idiot de ne pas l'utiliser, parce que ne pas l'utiliser, ça voudrait dire qu'on a oublié que la bourgeoisie avait besoin de comprendre la réalité. Donc elle, une partie de ces chiffres sont justes. Et en même temps, c'est aussi idiot de considérer que les chiffres, il faut les prendre tels quels. Je voudrais juste donner un exemple de trafic des chiffres par la bourgeoisie. En 1982, l'INSEE change sa nomenclature. Donc elle change ce qu'on appelle ouvrier, employé, etc. Résultat, 1 million d'ouvriers en moins en 24 heures. Le changement de nomenclature amène à diminuer le nombre d'ouvriers d'1 million. Voilà, j'ai changé ce qu'on appelle ouvrier et ça change complètement la nomenclature. Mais même dans leur nomenclature telle qu'elle est, donc ils sous-estiment la réalité des classes sociales prolétaires, même dans cette dimension-là, les chiffres sont parlants. Les ouvriers stricto sensus, puisque je viens de montrer qu'ils avaient été diminués, stricto sensus, 25,5% de la population active. Si on y ajoute maintenant les employés, qui, on l'a vu tout à l'heure, font partie du prolétariat, si on ajoute les employés, 29,1%. Rien que le prolétariat tel que défini officiellement, hein. Enfin, dans les statistiques de l'INSEE, ils ne mettent pas prolétariat, c'est nous qui les appelons prolétariat.
C'est l'équivalent de ceux qui ont élu l'actuel Charlot à la tête de l'État.
55,5%.
Ah, beaucoup plus.
55,5%.
Beaucoup plus.
55,5% avec des statistiques bourgeoises dont j'ai montré qu'elles étaient depuis 82 en sous-estimation du noyau du prolétariat qui est la classe ouvrière. C'est dire que s'il y a une classe centrale dans ce pays, dans la population active, c'est bien le prolétariat. Et dans le prolétariat, les ouvriers et les employés, les ouvriers arrivent derrière les employés, mais on a bien vu que depuis 82, on a fait diminuer de manière artificielle 1 million d'ouvriers pour les faire basculer dans les employés.
On se retrouve dans quelques instants, Saïd.
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1982, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887. 548, 549, 1      1
 1
 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││ 1││
8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11.
Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin? Quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois.
Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé un bas salaire, c'est une chose à pas oublier.
Oui mais...
Mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors là dit, les gentlemen,
il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin. Quand les gibus ils changeront de tiette, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 PDG.
Il est 19h30 à peu près, à la louche.
Ah, c'est
vous êtes, vous écoutez.
C'est l'heure, c'est le principal.
Campus sur le saucisse pois chiche, ou vous nous écoutez sur à Évreux, par exemple, chez. À l'époque, c'était Monseigneur
Gaillot.
Gaillot.
Je sais pas pourquoi
c'est
je dis
le
ça.
Seul, c'est le seul que je dis, monseigneur. Les autres, je dis...
Monsieur, sur campuslille.com. Voilà.
Sur campuslille.com. Juste avant la chanson, on va passer un petit extrait. C'est une parodie du comptage des flics. C'est la camionnette de police qui compte les manifestants.
Voilà. Tu fais bien de préciser. Donc, Saïd Bouamama est venu ici nous faire sa petite météo mensuelle. Et là, on revient sur Marx, comme souvent, et on parle de classe sociale. La classe ouvrière aujourd'hui, on en était là. Il y a quand même une différence, je pense. Il y a quelque chose d'important à noter. Si on remonte, même si on regarde par rapport à il y a 50 ou 60 ans, c'est que cette classe ouvrière, elle s'est très largement féminisée aujourd'hui. Quand on voit concrètement dans les usines, il y a des territoires où même syndicalement, les femmes sont très largement majoritaires parce que il semble que ça soit de la chair à canon plus facilement malléable, je sais pas.
Alors, effectivement, pour être très précis, c'est surtout au sein du prolétariat qu'elles ont augmenté. Alors, le nombre d'ouvrières augmente, mais le nombre d'employés, c'est du côté des employés qu'elles explosent. Je rappelle que les professions d'employés sont aujourd'hui des professions hyper exploitées.
Femmes de ménage, caissières...
Absolument. Et c'est des endroits dans lesquels les conditions de travail sont particulièrement dramatiques, avec des conséquences en termes d'accidents du travail, de santé au travail, qui sont particulièrement douloureuses. Donner quelques chiffres de repérage, hein. Elles étaient 38% en 70 de la population active, elles sont à 48,5% en 2002. En gros, aujourd'hui, la féminisation du monde du travail est quasi terminée et on a une population active qui est à 50% féminine et à 50% masculine. Mais avec une répartition qui ne sont pas dans les mêmes secteurs et dans les secteurs très tendus, dans les secteurs à conditions de travail extrêmement précaires, etc., on a plus de femmes que d'hommes.
C'est-à-dire qu'elles sont a priori plus flexibles, apparemment d'après le point de vue du patron. Quoi.
Absolument. Et donc, ça nous amène à tirer une leçon, qui est une attention particulière dans nos syndicats, justement à la question féminine, parce que ce sont des secteurs qui sont nécessaires si on veut faire basculer le rapport de force.
Ça veut dire que quand on est marxiste, on doit sans doute apparemment évoluer aussi, c'est-à-dire qu'on peut adapter, effectivement, il y a deux classes, etc. On doit adapter aussi son point de vue par rapport à ce qui se passe dans le réel. La praxis, je pense, quelque chose comme ça. Et là, en l'occurrence, les femmes, la féminisation du monde du travail, du prolétariat, ça nous oblige
à une attention particulière au secteur dans lequel sont les femmes. C'est-à-dire que en tant que marxiste, nous regardons la classe telle qu'elle est, et quand elle devient féminine, eh bien, nous avons à nous intéresser aux femmes qui sont travailleuses, et donc à nous préoccuper s'il n'y a pas des revendications particulières. Sinon, elles ne viendront pas rejoindre le combat général. C'est pas pour défendre les intérêts de chacun. C'est que si on veut l'unification de la classe, il faut prendre en compte les revendications particulières. Quand les femmes ont des conditions de travail, plus les soucis des enfants, plus, etc., si on prend pas en compte ça dans nos revendications, un certain nombre d'entre elles, même si elles veulent s'engager, ne pourront pas le faire.
Elles vont pas se reconnaître dans le mouvement.
Et donc, tu as raison de dire que les militants qui se disent marxistes, les syndicalistes, etc., doivent prendre en compte la classe ouvrière comme elle est.
Il faut être féministe aujourd'hui alors.
Et bien sûr.
Il fallait sans doute l'être hier, mais...
Absolument. Et la seule différence, c'est que les marxistes considèrent que le féminisme est une partie du combat du prolétariat et non pas un combat à part ou un combat à côté.
Ah, parce qu'il y a le féminisme bourgeois aussi. Hein.
Absolument.
Alors, ce prolétariat aussi aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose sur lequel tu attires l'attention depuis un certain temps, c'est ce prolétariat, il a aussi changé de couleur, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'identité nationale, hein, on a commencé avec ça. Alors, il y a le danger islamique, les Noirs, les Arabes, les Roms même maintenant. Ce prolétariat, ça a commencé il y a très longtemps, a nettement bronzé. Aujourd'hui, il y a des chiffres peut-être aussi, je pense.
Oui, là, alors d'abord, disons qu'ils font tout.
Il me semble que dans les années 70, c'était 30% de la classe ouvrière, c'était déjà des immigrés.
Absolument, absolument. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que 30% aujourd'hui de la classe ouvrière, enfin du prolétariat en général, pas seulement la classe ouvrière, du prolétariat, 30% du prolétariat sont de l'immigration qui viennent d'Afrique et du Maghreb. Mmh. Je dis ça pour que nos auditeurs comprennent pourquoi ce gouvernement insiste tant sur l'identité nationale, pour diffuser un racisme d'État.
Parce que dans la bourgeoisie, ils sont pas 30%, les bronzés.
Non, non, pas du tout. Et puis la bourgeoisie, c'est très bien. Par contre, que si on réussit à diviser la classe ouvrière entre 30% et 70%, c'est une division, une faille énorme qui empêchera les mobilisations. Juste quelques chiffres, et je m'excuse auprès des auditeurs si c'est un tout petit peu ardu, mais je voudrais vraiment donner les chiffres pour une raison toute simple. C'est que ces chiffres-là sont cachés. On a été obligé de les de faire des, de refaire du calcul statistique. On est un certain nombre de sociologues à vouloir mettre ça en avant. Donc on a repris les statistiques, on a juste mis en avant.
Vas-y, prends ton temps, Saïd. Voilà.
Donc nous avons, pour ceux qui seraient sceptiques, vous regardez les statistiques officielles, vous avez 5,1% de la population active qui vient des pays tiers, c'est-à-dire non européens, donc d'Afrique ou du Maghreb. 5,1% de la population active. Si maintenant nous introduisons ceux qui sont devenus français, qu'on peut avoir également dans d'autres statistiques, donc quand on les cumule, eh bien nous doublons. Nous sommes déjà à 11% du prolétariat. Si maintenant nous ajoutons les 300 000 sans-papiers, 200 à 300 000 personnes, j'ai pris les évaluations minimum, évaluations officielles, mais dans d'autres statistiques encore, et qui sont des travailleurs, vous le savez tous, pour la plupart, ils travaillent dans le BTP, ils travaillent dans le textile, etc.
L'hôtellerie.
Voilà. Nous en sommes déjà à 3,5 millions de personnes. Si on ajoute maintenant la population des dom-tom, qui sont de couleur noire et qui sont qui ont les mêmes conditions de travail que les autres, et quand ils ont un peu plus, c'est qu'ils accèdent à la fonction publique, mais laquelle ? Celle des hôpitaux, là où il y a, où ils sont employés, hyper flexibles, enfin hyper...
PTT.
Ou PTT, etc. Eh bien, si vous cumulez tout ça, et si vous rajoutez
les enfants... en train de nous faire des statistiques ethniques, là, Saïd, c'est pas bien.
Parce qu'il faut regarder la classe ouvrière telle qu'elle est.
Ah oui.
Telle qu'elle est, comme on a regardé pour les femmes. Si vous ajoutez maintenant les
ils
enfants...
Ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas assimilés, tous ces gens-là.
Ils
ne
sont pas tout à fait dans les mêmes secteurs, et ils ne vivent pas tout à fait la même chose. Et si vous ajoutez donc leurs enfants qui vivent de discrimination, ah oui. Je vous rappelle la dernière enquête du Bureau international du travail. Ce n'est pas un groupe gauchiste, ce n'est pas Saïd Bouhama qui a fait une enquête. Bureau international du travail.
BIT.
BIT, oui. 4 employeurs sur 5 dans leur testing préfèrent le candidat qui n'est pas issu de l'immigration à qualification égale. Mmh. Donc, ils ont des situations de vie particulières. Si vous prenez tout cela, ça fait 4 millions de personnes, ce qui fait 30% du prolétariat. Autrement dit, s'ils réussissent par leur idéologie d'identité nationale, l'islam dangereux, etc., tous les débats qu'ils lancent, tous les 15 jours, on a un nouveau débat qui stigmatise la même population, s'ils réussissent à nous priver de 30%, ça va être beaucoup, ça va être difficile de transformer la réalité, surtout que ces 30% sont dans des secteurs qui sont stratégiques pour la bourgeoisie et qui sont stratégiques pour nous si nous voulons transformer la société.
C'est-à-dire que c'est même pas seulement quantitatif, c'est qualitatif.
C'est qualitatif également.
Est-ce qu'on peut dire que cette classe ouvrière-là, elle est l'avant-garde en quelque sorte, enfin, elle,
je sais pas potentiellement, si elle, l'avant-garde, enfin, elle est indispensable à la transformation de la société. On transformera pas la société si on n'a pas le bâtiment travaux publics, si on n'a pas la sidérurgie, si on n'a pas un certain nombre de secteurs de ce type-là.
Est-ce que tu crois que les syndicats, les organisations syndicales, ce sont elles-mêmes aussi, puisque le pouvoir cherche à diviser les gens comme ça, se sont en partie, pas totalement, c'est une évidence, coupés de ces secteurs-là, secteur d'économie, mais aussi de cette classe ouvrière-là, qui est la même, hein, je veux dire, il n'y a pas de frontières, mais voilà, qui est plus bronzée que les autres. Est-ce que tu crois
je pense en tout cas qu'on a pris énormément de retard. Mm-hmm. Alors, on ne va pas, en particulier, moi, pour mon syndicat, excusez-moi d'être un tout petit peu chauvin syndicalement, en particulier pour la CGT, il y a quand même du travail en direction de cette classe ouvrière, mais il n'est pas à la hauteur. Et il est même timide à certains moments. Et donc je pense qu'effectivement, nous avons du retard dans la syndicalisation de cette partie du prolétariat. En particulier parce que beaucoup sont jeunes. Hein. Une des caractéristiques de l'immigration, c'est qu'elle est jeune. Et donc, en particulier parce qu'elle est jeune, et donc elle est dans des petites entreprises, elle est dans des entreprises, c'est éparpillé.
C'est pas facile quand même. Hein,
c'est pas facile, donc c'est pour ça que c'est pas les méchants syndicats, c'est nous devons nous y mettre. Et c'est un vrai chantier, et c'est un chantier essentiel.
Et on doit quand même s'arrêter sur des constats. Quand on dit que ce n'est pas les méchants syndicats, quand on a une énième loi contre les immigrés, contre les sans-papiers, contre tout ce qui est basané, enfin une loi destinée au Front National et ses électeurs, et que devant l'Assemblée nationale, il n'y avait que des manifestants sans-papiers, sans aucun autre soutien. Habituellement, tu as un drapeau CGT, tu as la CGT, tu as les autres, je m'en moque. Mais quelques drapeaux qui étaient habituellement présents, entre guillemets. Et là, il n'y avait pas. Il n'y avait que les sans-papiers devant l'Assemblée nationale. Mais de quoi poser des questions et les poser crûment. Les poser crûment.
Mais de manière constructive, ouais. Quand même.
D'une manière constructive, je ne sais pas ce que ça veut dire constructif. Parce que jusque-là, je ne sais pas qui est constructif. Mais
tu n'es pas très
qui
constructif,
est...
hein, toi.
Non, mais là où tu as raison, Majid, c'est que cette partie de la classe ouvrière n'a pas, dans les préoccupations syndicales, la place qu'elle devrait avoir. Et c'est dramatique en termes stratégiques, parce que si on veut un jour transformer cette société et battre la bourgeoisie, on ne le fera pas en éliminant 30% d'une classe. Si en plus une partie des femmes ne s'estime pas prise en compte, Ah ben vous rajoutez. Si en plus une partie des jeunes ne s'estime pas pris en compte.
Bah les jeunes, justement.
Alors, bah les jeunes.
Parce que les jeunes, ça aide quand on écoute des anciens, des gens de notre génération, finalement. Hein. Nous parler des jeunes, bien souvent, et des jeunes des classes populaires, c'est. Ces jeunes-là sont totalement résignés, ils n'ont aucun repère, ils sont déstructurés, c'est jeux vidéo, télévision, patati patata. Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que cette jeunesse-là. Est-ce qu'elle a sa place dans cette classe ouvrière? Est-ce qu'elle s'y reconnaît? Est-ce qu'elle a des repères là-dedans? Moi, j'ai l'impression, parfois, effectivement, qu'elle n'a pas de repères dans tout ça, qu'elle a la conscience de classe, là, pour le coup, c'est complètement abandonné de ce côté-là.
Alors, d'abord, la conscience de classe, ça s'acquiert comment? Ça ne s'acquiert pas au berceau. La conscience de classe, ça s'acquiert sur la base d'une expérience d'exploitation plus les théories qui me permettent de comprendre mon exploitation.
Bah, les expériences, ils les ont, en général.
Pardon?
Les expériences, ils les ont.
Les expériences, ils les ont, mais ils n'ont pas les théories. Donc, ça pose la question, qui a été vers cette jeunesse, soit en termes de partis politiques, soit en termes de syndicats, comment on s'adresse à cette jeunesse et comment on est capable de les organiser.
Mais tu sais t'adresser à elle, toi?
Ça s'apprend. C'est que je ne veux pas dire que je sais, en tout cas, c'est en y allant qu'on apprendra. Qui pouvait savoir comment s'adresser aux ouvriers initialement? Je vous rappelle qu'il y a un siècle et demi, on avait des tracts qui étaient écrits par Karl Marx, avec y compris sa manière difficile d'écrire, distribués à la porte des usines.
Qui étaient lus.
Qui étaient lus. Donc il ne leur manque pas un gène de lecture, il leur manque l'expérience de ça, et donc à nous de la forger. Je voudrais juste, pour montrer, donner deux chiffres. 21%, c'est le taux de chômage des jeunes. À peu près le double de la moyenne nationale. C'est dire que, quand on dit les jeunes sont des feignants, regardons de plus près, notre société organise... Alors pourquoi il y a autant de chômage de jeunes?
Tu crois que c'est un laboratoire, toi, le... Mais
c'est, non seulement c'est un laboratoire, c'est que quand on est au chômage à 21%, quand on vous propose de l'emploi précaire, vous ne faites pas le difficile. Et vous faites concurrence aux vieux. Quand on regarde les chiffres de l'emploi précaire pour la jeunesse, 34% des 15-29 ans ont un emploi précaire, contre seulement 9% des 30-49 ans. Autrement dit... Les nouvelles générations...
C'est eux qu'on voit au secours populaire de plus en plus.
Exactement.
Hein.
Les nouvelles générations sont en train d'expérimenter le modèle du capitalisme pur auquel veulent revenir nos dominants. Et bien entendu, on n'a pas attaqué tout de suite le cœur de la classe ouvrière, ceux qui avaient déjà une culture syndicale, 15-20 ans, etc. On fait entrer la logique pure par l'intermédiaire des nouvelles entrées dans le travail. C'est dire qu'en tant que syndicaliste, faisons attention dans la négociation des accords. Je rappelle que moi j'étais très en colère parce que je me disais, je ne sais pas si c'était sincère ou si c'était conscient, mais quand je voyais des accords à RTT dans lesquels on disait « Ouf, on a gardé les avantages pour les anciens, mais les nouveaux les auront pas », on était en train d'accepter que les nouvelles générations allaient avoir, donc qu'il y avait deux catégories, ils allaient faire le même boulot, mais avec deux catégories de droits au sein de la même entreprise.
Ça, c'est ce que tu es en train de dire. Finalement, je me demande si ce n'est pas le même mécanisme qui agit pour les retraites. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la question des retraites, on a l'impression qu'il y a deux... Il y a ceux qui sont tout près de la retraite qui s'en foutent un petit peu, hein, et puis ceux pour qui c'est très lointain et qui s'en foutent aussi complètement.
Alors là-dessus, il faut vraiment s'adresser aux deux, à ces deux catégories. Ceux qui sont à côté de la retraite et qui s'en foutent complètement oublient tout simplement que c'est le rapport de force entre les classes qui est la seule garantie que leur retraite aura un niveau de pension durable qui soit vivable. Parce que si effectivement on attaque la retraite en termes de nombre d'années, on en rajoute, etc., et bien ceux qui sont déjà à la retraite verront leur pension diminuer. La seule garantie qu'ils ont, c'est lorsque le rapport de classe tient. Quant à ceux qui ne sont pas encore entrés sur le monde du travail ou qui disent c'est trop loin, etc., oublient tout simplement que les retraites d'aujourd'hui ont été obtenues par des combats d'hier et donc que c'est leur combat d'aujourd'hui qui leur permettra d'avoir des retraites plus tard. Et donc la question qui est posée, c'est vraiment la question de pouvoir nous percevoir en tant que classe. Au-delà du fait qu'on soit jeune, qu'on soit femme, qu'on soit issu de l'immigration, qu'on soit dans le cœur de la sidérurgie ou employé, comment on peut faire vivre notre intérêt commun? Et ça, eh bien, c'est tout le pari d'aujourd'hui. La bourgeoisie diffuse des idéologies pour parcelliser, et nous avons diffusé des idéologies pour homogénéiser.
Pour globaliser. Bon. Alors peut-être que justement, cette journée du 2 qui arrive là, samedi prochain, même si dans certains milieux, on dit, ouais, ça va pas assez vite, il faut des jours de grève, etc. Mais finalement, après tout, cette journée du 2, elle a été annoncée, elle est là. Il y a une manifestation à 14h30 porte de Paris. Ça va permettre, absolument, peut-être, de croiser les gens dont tu viens de parler.
Absolument.
Ceux qui ne font pas grève parce qu'ils n'y croient pas, ils sont résignés, ils n'ont pas les moyens, etc. On va peut-être voir, effectivement, tous ces aspects du prolétariat dont tu as parlé.
Absolument. Et puis, n'oublions pas que c'est aussi l'espoir, ça vient aussi en se comptant. En se comptant. Moi, je me souviens des réactions que l'on avait... lors de la première manifestation le 7 septembre, j'ai vu plein de gens étonnés du monde, contents, on voyait les sourires, c'est-à-dire qu'ils étaient venus en disant « j'espère qu'il y a du monde » et là il y avait du sourire et c'est aussi comme ça que l'espoir revient.
Une petite annonce avant qu'on écoute la semaine à Cuba, je le rappelle, hein, Majid.
Alors, Saïd, samedi prochain aura lieu, juste après la manifestation, au gymnase, à la salle du gymnase à côté de Théâtre Sébastopol, une conférence, colloque, débat, échange, etc., etc., sur, intitulé « C'est content de penser libératrice assassinée, 1960-2010, France-Afrique, parlons-en ». Un mot, parce qu'il nous reste très très peu dedans.
Petit mot.
Très très peu de...
Ce sera après la manif, donc...
ce sera après la manif.
Salle du gymnase Métro-République.
Eh bien, un petit mot tout simple.
À 16h,
Le gouvernement impérialiste français de M. Sarkozy s'est permis de fêter les 50 ans des indépendances. Donc l'État qui a colonisé et qui continue à exploiter ses anciennes colonies prétend fêter ses indépendances. Nous avons voulu... bien faire une contre-commémoration en montrant bien ce que les indépendances avaient porté comme espoir au niveau des peuples, espoir d'égalité, espoir de justice sociale, et comment, par la manipulation du gouvernement fantoche, par des jeux impérialistes, par des assassinats, etc., comment s'est maintenue, eh bien, l'oppression non plus coloniale, mais néocoloniale, qui revient au même au niveau des peuples, c'est-à-dire que, effectivement, pour les peuples, eh bien, les espoirs des indépendances sont aujourd'hui déçus, et donc que le combat pour la véritable indépendance est loin d'être terminé, il est à reprendre.
C'est un combat qui se poursuit également pour un ex-pays colonisé depuis bien plus longtemps et qui a résisté lui au néocolonialisme, c'est Cuba. Malgré tous les mensonges, je vous propose d'entendre la semaine à Cuba. Tout de suite en fait, on n'a pas le temps d'écouter de la musique. Ouais, ok, d'accord Ali.
La menace terroriste est réelle.
La menace est réelle.
L'objectif du gouvernement, c'est le maintien de notre régime par répartition.
La menace est réelle.
C'est parce que nous vivons beaucoup plus longtemps que nous devons accepter de travailler un peu plus longtemps.
La menace est réelle.
Est-ce que cela a un rapport? On ne le sait pas. Le ministre de l'Intérieur a estimé ce soir que le risque terroriste s'était accru ces dernières heures en France.
La menace est réelle.
Tiene una planta de radio que se está ya transmitiendo toda la América Latina.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
La semaine a Cuba. Une semaine marquée notamment par la réaffirmation par Cuba aux Nations Unies de sa disposition de continuer à œuvrer en faveur d'un nouvel ordre économique plus juste. Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez présentait jeudi à l'ONU la position de Cuba concernant les objectifs du millénaire fixés il y a 10 ans. Prenant la parole au sommet des objectifs du millénaire pour le développement à New York, en présence de quelques 140 chefs d'État ou de gouvernement, Bruno Rodriguez s'est référé à l'application de ces objectifs à Cuba.
En Cuba, las metas previstas en la declaración del milenio han sido cumplidas.
À Cuba, les buts fixés dans la déclaration du millénaire ont pratiquement été atteints dans leur totalité et dans plusieurs cas largement dépassés. Notre engagement dépasse les frontières du pays et nous a permis de contribuer au développement social d'autres nations du tiers-monde. Cela est le résultat direct d'une révolution qui accordait la priorité au bien-être de la population dans un climat d'égalité et de justice sociale. C'est le fruit de la société que nous construisons, basée sur le principe de la solidarité. C'est aussi un succès remporté, malgré le blocus économique, commercial et financier imposé au peuple cubain pendant un demi-siècle par le gouvernement des États-Unis.
Bruno Rodriguez a également salué les progrès faits par d'autres pays latino-américains.
Nos alientan y alegran los altos índices alcanzados por la revolución bolivariana en Venezuela.
Les résultats atteints par la révolution bolivarienne au Venezuela nous encouragent et nous remplissent de joie. Cela a eu lieu grâce aux politiques sociales profondes menées à bien par le président Chavez, et cela malgré les tentatives de déstabiliser cette nation qui lutte et va de l'avant. Nous sommes aussi très satisfaits des résultats obtenus par la Bolivie, le Nicaragua et l'Équateur à partir de l'engagement et de l'action de leur gouvernement. Les États membres du CARICOM ont eux aussi fait des progrès. Les niveaux de coopération et d'intégration solidaire dans le cadre de l'ALBA ont sans doute été un facteur décisif en ce sens. Le gouvernement du président Lula au Brésil a lui aussi obtenu des résultats remarquables dans le social qui méritent une reconnaissance. Cependant, ces progrès n'ont pas dépendu de l'aide internationale des pays développés qui est presque inexistante. Il ne résulte pas non plus de changements positifs dans l'ordre économique mondial qui reste très injuste et favorable aux riches.
Le ministre cubain des Affaires étrangères a assommé l'ONU d'assumer le leadership et d'agir rapidement. Il a précisé.
Las Naciones Unidas traicionarán su razón de ser si no toman conciencia de estas realidades y actúan ahora.
Les Nations Unies trahiront leur raison d'être si elles ne prennent pas conscience de ces réalités et s'ils n'agissent pas maintenant même. Nous avons la conviction profonde que pour garantir la survie de l'espèce humaine, il faut mettre au point un nouvel ordre économique et politique international basé sur les principes de solidarité, de justice sociale, d'équité et de respect des droits des peuples et de chaque être humain.
Les objectifs du millénaire ont été fixés en 2000 dans le but d'éliminer la pauvreté extrême et la faim, obtenir que l'enseignement primaire ait un caractère universel, promouvoir l'égalité de genre et l'autonomie de la femme. Le monde est à seulement 5 ans de l'échéance donnée pour leur réalisation. Jeudi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qualifiait d'impressionnantes les réussites de Cuba dans l'application des objectifs du millénaire. Ban Ki-moon faisait l'éloge des efforts déployés par Cuba au cours d'un entretien au siège de l'ONU avec Bruno Rodriguez, ministre cubain des Affaires étrangères et chef de la délégation de Cuba au sommet sur les objectifs du millénaire. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs salué l'aide que Cuba apporte au peuple haïtien depuis bien avant le séisme du 12 janvier. Toujours aux Nations Unies, jeudi, l'Union africaine et le Brésil ont exigé la levée du blocus économique, commercial et financier que les États-Unis ont officiellement décrété contre Cuba en février 1962. Au nom de l'Union africaine, son président, le chef d'État du Malawi, Bingu wa Mutharika, a signalé que les sanctions contre un pays du mouvement des pays non alignés causent de graves difficultés économiques à son peuple et il a assuré que les justifications idéologiques, si jamais un jour il y en a eu quelques-unes, ont d'ores et déjà perdu leur actualité. Ces mesures sont incongrues avec le dialogue qui découle des réformes de l'ONU et inconsistantes vis-à-vis des obligations des pays membres de promouvoir le progrès social comme le veut la Charte des Nations Unies, a-t-il relevé. De son côté, Celso Amorim, ministre brésilien des Affaires étrangères, qualifiait d'illégitime le blocus états-unien conçu pour réduire le peuple cubain par la faim et la maladie. Ce blocus a uniquement réussi à entraver les efforts de millions de Cubains dans leur lutte pour le développement, a souligné le chef de la diplomatie brésilienne devant l'Assemblée générale de l'ONU. Puis, dans des déclarations à la presse, le ministre brésilien des Affaires étrangères indiquait.
Brasil, al igual que todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, repudian el ilegítimo bloqueo a
Cuba. Le Brésil, de même que tous les peuples latino-américains et caribéens, condamne le blocus illégitime de Cuba, dont le seul résultat a été le prix élevé qu'a dû payer le peuple cubain. Nous condamnons des processus antidémocratiques comme le coup d'État au Honduras et nous nous prononçons pour le retour du président Manuel Zelaya, indispensable pour la normalisation totale dans ce pays et dans la région. Il est impossible de travailler avec des méthodes de travail permettant aux membres de discuter à huis clos des questions qui intéressent l'humanité. Le Brésil a fait de son mieux pour faire ce qu'on attend d'un membre non permanent du Conseil de sécurité pour contribuer à la paix. C'est pour cette raison que nous travaillons à la recherche d'une solution au dossier nucléaire iranien. Nous nous appuyons également sur des propositions permettant de faire régner la confiance entre les parties.
Vendredi, Granma, notre principal quotidien, publiait des déclarations de Francisco Chavez Abarca, terroriste notoire d'origine salvadorienne, des déclarations qui démontrent la continuité des actions violentes d'organisations terroristes basées aux États-Unis contre la révolution cubaine et les plans pour entraver le bon déroulement des élections de ce dimanche au Venezuela. un long article que publiait Gramma appelait le gouvernement des États-Unis à condamner Luis Posada Carriles, criminel avoué, et à libérer les 5 Cubains prisonniers politiques aux États-Unis s'il veut être cohérent avec son présumé engagement envers la lutte contre le terrorisme. Posada Carriles est responsable de toute une kyrielle de crimes, dont l'explosion en plein vol d'un avion de ligne cubain en 1976. Les 73 personnes qui se trouvaient à bord ont été tuées. Ils se promènent tranquillement dans les rues de Miami. Pour ce qui est des 5, ils purgent de très lourdes peines de prison, dont 2 perpétuités. Ils ont été accusés à tort de conspiration à des fins d'espionnage. Ils n'avaient pourtant fait que surveiller les organisations terroristes de Miami pour prévenir Cuba des attentats la prenant pour cible. Gramma a donné des informations détaillées sur les récentes révélations du terroriste Francisco Chavez Abarca après son arrestation en juillet dernier au Venezuela. Dans ses déclarations, Chavez Abarca, qui est en prison ici à Cuba, a indiqué que parmi les plans les plus récents de Posada Carriles figure l'intention de faire couler des bateaux qui transportent du pétrole du Venezuela à Cuba. Il a ajouté que la Fondation nationale cubano-américaine destine des sommes importantes à la déstabilisation de ce pays sud-américain. Sanchez Abarca a ajouté que Posada Carriles se vantait du fait que pour réaliser chaque action violente contre Cuba, il devait demander l'autorisation de la CIA. Cette semaine, Le Monde a célébré la Journée internationale de la paix. À Cuba, un meeting a eu lieu à l'Institut cubain d'amitié avec le peuple, l'ICAP. Au cours de la rencontre, Junko Watanabe, survivante du bombardement atomique états-unien contre la ville d'Hiroshima en 1945, s'est référée à cette attaque qui a été perpétrée quand elle était petite et dont elle garde des séquelles.
Eso quiere decir que en época nos va a llegar pronto que no podremos.
Je veux dire qu'à une époque qui arrivera bientôt, il n'y aura plus de survivants de la tragédie qui pourront donner leur témoignage. J'ai compris l'importance de transmettre mon message en faveur de la paix sur la tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki. José Ramón Rodríguez, président du mouvement cubain pour la paix et la souveraineté des peuples, mettait alors l'accent sur la nécessité de préserver l'humanité des guerres. Il soulignait.
Devuelvan al mundo de hoy la salud perdida ante tanta ambición y desprecio por la especie humana.
Que l'on rende au monde d'aujourd'hui la santé perdue à cause de tant d'ambition et de mépris pour l'espèce humaine, pour que les tragédies d'Hiroshima et de Nagasaki, pour que les agressions, les attaques et les occupations dans n'importe quel point de la planète ne se répètent jamais. Nous appelons les personnes ici présentes à se joindre à l'appel pressant du commandant Fidel Castro au sujet de la nécessité d'un vaste mouvement international pour éviter la guerre.
Le lendemain, le leader de la révolution cubaine, Fidel Castro, rencontrait des membres de la croisière pour la paix du Japon qui se trouvaient en visite dans notre pays. La rencontre a eu lieu au palais des congrès de notre capitale. Les membres de cette croisière parcourent divers pays dans le cadre d'une action en défense de la paix mondiale. La brigade solidaire formée de presque un millier de Japonais était arrivée dans notre capitale le 21, justement, le jour institué par l'ONU comme Journée internationale de la paix. Il s'agit de la 14e visite à Cuba de Peace Boat, une ONG fondée en 1983 à Tokyo et dont le but est d'apporter un message de paix à tous les peuples du monde. Se référant à l'importance du mot d'ordre de la croisière de la paix, apprend des guerres passées pour bâtir un avenir de paix, Fidel Castro a indiqué.
C'est sans aucun doute une phrase qui aura toujours un sens. Elle a aujourd'hui plus de sens que jamais. J'oserais dire, sans crainte de me tromper, qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un moment aussi dangereux que celui que nous vivons.
Fidel a rappelé la profonde impression qu'a provoqué en lui la nouvelle, l'été 1945, de l'utilisation, pour la première fois, d'armes nucléaires contre des villes. Il a précisé.
C'est un exemple de las cosas que ayudan a ganar conciencia. La exhibición de todo lo que ocurrió ayer, el daño humano que
C'est un exemple des choses qui est à la prise de conscience. Tout ce qui s'y est passé, des dégâts humains, les images de tout ce qui s'y est passé ont bouleversé l'opinion publique mondiale. Je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose de plus illustratif sur ce qu'est la guerre.
C'était la semaine à Cuba.